VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Abidjan, 14h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. 28e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Le roi du Maroc, Mohamed VI, a assisté ce mardi à la cérémonie de clôture du sommet de l'Union africaine au lendemain de la réintégration du royaume chérifien au sein du bloc continental après 33 ans d'absence. Le royaume chérifien salue son retour au sein de l'Union africaine comme une décision historique et une victoire diplomatique. Mais la question se pose maintenant de savoir comment Rabat va gérer sa cohabitation avec le Front Polisario au sein de l'organisation panafricaine. Le Maroc a claqué la porte de l'Union africaine en 1984 pour protester contre l'admission de la République arabe sahraoui démocratique RASD pour proclamé par les indépendantistes du Front Polisario au Sahara occidental, ex-colonie espagnole que Rabat contrôle et considère comme sien. Ibrahima Kan, spécialiste de l'Union africaine, estime que le Maroc n'aurait jamais dû partir de l'organisation panafricaine.
Le Maroc a quitté l'OUA d'alors pour des raisons liées à la reconnaissance de la RASD. Aujourd'hui, c'est le Maroc qui reconnaît, ne serait-ce que tacitement, la République arabe sahraoui démocratique par la ratification de l'acte constitutif de l'Union africaine. Le Maroc accepte la République sahraoui est un État africain, est un État indépendant, est un État souverain, et que cette souveraineté, cette indépendance doit être respectée par le Maroc. C'est ça le paradoxe de ce retour du Maroc, parce que finalement, à y regarder de plus près, il y a eu 30 années de perdu pour absolument rien, puisque ce qu'il a refusé il y a 30 ans, c'est ce qu'il accepte aujourd'hui, même dans des conditions plus ou moins difficiles, parce que l'occupation maintenant d'une partie du Sahara occidental qui constitue le territoire de la République arabe sahraoui devient quelque chose d'illégal dans le cadre juridique africain. Et c'est ça qui est un paradoxe pour le Maroc.
Ibrahima Kan à Dakar. Au Nigeria, un mort, tel est le bilan d'un attentat ce mardi dans une mosquée de Dalori, aux environs de Maïdougouri, la métropole du nord-est du pays, pendant la première prière du matin. Et toujours dans le nord-est, une fillette d'environ 10 ans a été tuée lors d'une tentative d'attentat suicidaire dans la commune de Banki, en activant sa ceinture explosive à l'approche des forces de sécurité. C'est ce qu'a rapporté ce mardi un membre des milices civiles. Banki est situé dans l'état de Borno, à la frontière avec le Cameroun. En Mauritanie, des milliers de personnes dans l'attente ce mardi à Nouakchott d'une décision de la Cour suprême sur la condamnation à mort pour blasphème de l'auteur d'un billet de blog. Les intéressés se sont rassemblés sur une grande place de Nouakchott à environ 2 km du siège de l'institution judiciaire et réclament la confirmation de la sentence et l'exécution de la peine contre le prévenu. Les manifestants se sont réunis à l'appel d'un forum des oulémas et imams pour la défense du prophète de l'islam, collectif qui a organisé plusieurs manifestations similaires depuis novembre. La Cour suprême mauritanienne, qui avait reporté sine die sa décision le 20 décembre, tient une audience durant laquelle seront examinés plusieurs dossiers, dont celui du condamné à mort Cheikh Ould Mohamed Ould Nkeitir, également connu comme Mohamed Cheikh Ould Mohamed. C'est ce qu'a affirmé à l'AFP une source judiciaire sans donner plus de détails. Un important dispositif de sécurité est déployé à travers la capitale Nouakchott à l'occasion de cette affaire. Et puis en Côte d'Ivoire, 10 personnes, dont 8 militaires, comparaissent à partir d'aujourd'hui devant la cour d'assises d'Abidjan à l'occasion du procès dit du Novotel. Le directeur de l'hôtel Novotel d'Abidjan, Stéphane Franz, dit rappelle Yves Lamblin, directeur général de SIFCA, plus grand groupe agro-industriel ivoirien, son assistant béninois Raoul Adeossi et le malaisien Chelia Pandian, directeur général de Sanya, filiale de SIFCA, avaient été enlevés par un commando militaire le 4 avril 2011 dans Abidjan, en pleine crise post-électorale. 5 des 10 accusés, dont le général Bruno Dogboblé, qui commandait la garde républicaine, sont poursuivis pour séquestration et assassinat, les autres pour enlèvement et ou disparition de cadavres. Le procès se tient au palais de justice de Yopougon, un grand quartier d'Abidjan, et va durer 2 à 3 semaines.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
En RDC, toujours pas de sortie de crise. La CENCO, la Conférence épiscopale catholique, a parrainé un dialogue entre le pouvoir et l'opposition. Il y a eu un accord sur la composition d'un futur gouvernement qui se fait toujours attendre. Puis, Étienne Tshisekedi, leader du rassemblement d'opposition, est parti à Bruxelles pour des soins médicaux. Madame Christine Botefaboko, vice-présidente de la coalition des Congolais pour la transition, propose maintenant des états généraux de la nation. On l'écoute.
Pour sortir de cette crise, nous comptons organiser des états généraux congolais qui seront composés d'une constituante et d'un gouvernement constitutionnel de transition qui pourra exercer pendant 2 ans jusqu'aux futures élections. Parce que là, franchement, le pays est dans un état chaotique et le plan B de la CENCO, c'est d'envisager une mise sous tutelle de la RDC. Nous ne sommes pas d'accord avec ce projet. Ça fait 56 ans que le Congo est indépendant. Nous n'allons pas retourner en arrière. Nous n'allons pas régresser en mettant le pays sous tutelle.
Madame Christine Botefaboko, vice-présidente de la coalition des Congolais pour la transition. Conflit en Libye, le président tchadien Idriss Déby Itno apporte un soutien au maréchal libyen Khalifa Haftar, rival du chef du gouvernement d'Union nationale reconnu par la communauté internationale. Les détails avec Eric Manirakiza.
Idriss Déby Itno présente Khalifa Haftar comme une solution pour le pays. Le président tchadien affirme qu'il a reçu 2 fois N'Djamena et assure que le maréchal controversé n'a pas d'ambition politique personnelle. Son rôle, dit-il, est d'aider à un rapprochement pour le retour à la stabilité. Rival du chef du gouvernement d'Union nationale, Faez al-Sarraj, reconnu par la communauté internationale, le maréchal Haftar est très actif dans la lutte contre les djihadistes dans l'est de la Libye. Début janvier, N'Djamena a fermé sa frontière terrestre avec le voisin libyen en raison d'une menace d'infiltration terroriste. Les effectifs militaires tchadiens ont été doublés près de cette frontière. Monsieur Déby estime que la menace Daesh persiste. Selon lui, l'intervention des forces spéciales à Sirte n'a fait que créer un nouveau regroupement des terroristes dans la région de Koufra, au sud, à 200 km du Tchad.
Crise migratoire, la Tunisie a mis en échec 113 tentatives d'immigration clandestine en 2016. La plupart de ces migrants ont transité par la Libye voisine, Arzouma Compaoré.
Lofti Brahim, chef de la garde nationale, a dit devant le Parlement tunisien que l'an dernier, il y a eu 113 tentatives d'immigration clandestine et 1105 personnes ont été arrêtées. Il n'a pas donné de détails sur le sort des migrants interpellés, mais ils sont le plus souvent expulsés. Selon l'ONU, plus de 5000 personnes ont trouvé la mort l'an dernier en tentant de traverser la Méditerranée pour gagner l'Europe à partir de la Libye, où des réseaux de passeurs profitent du chaos politique et sécuritaire. Hier, lundi, les gardes-côtes libyens ont intercepté quelques 700 migrants qui tentaient cette traversée périlleuse. En moins d'un mois, l'Italie a vu débarquer sur ses côtes méridionales plus de 4000 migrants, pour la plupart originaires d'Afrique subsaharienne.
Coupe d'Afrique des Nations de football au Gabon. La première demi-finale opposera demain à Libreville les étalons du Burkina Faso à l'Égypte. Septuple le vainqueur de la CAN. Mais les Burkinabés y croient et continuent de se préparer sereinement à Libreville, où l'on retrouve sur place l'envoyé spécial de VOA Afrique au Gabon, Timothée Donangmaï.
Les étalons se sont entraînés lundi à huis clos au stade de l'INGS de Libreville. Une décision du coach Paulo Duarte qui veut assurer à ses poulains une concentration maximale avant la demi-finale contre l'Égypte. Dimanche déjà, consigne avait été donnée aux fans burkinabés de ne pas se rendre à l'entraînement. Pour les étalons, la mission au Gabon est loin d'être accomplie et il faut mobiliser toutes les ressources mentales et physiques pour y parvenir. L'Égypte est une adversaire de taille en demi-finale et ils en sont conscients. Mais les burkinabés n'ont pas oublié leur élimination par les pharaons en 1998 sur leur propre pelouse à ce même stade de la compétition. Ils comptent donc bien prendre leur revanche cette fois-ci, nous a dit le président de la Fédération burkinabé de football, le colonel Sita Sangaré. Quelques atouts des étalons ici au Gabon. Ils ont accumulé un précieux capital de sympathie auprès des Gabonais pour avoir été la première équipe nationale à arriver sur place pour la CAN 2017. Par ailleurs, leur coach Paulo Duarte a gardé de bonnes relations ici et a entraîné les Panthères gabonaises pendant 2 ans. Timothée Donangmaï, Libreville, VOA Afrique.
A noter que la deuxième demi-finale se jouera jeudi entre le Cameroun et le Ghana. Et pour terminer l'actualité américaine, le président Donald Trump va révéler ce soir le nom du magistrat conservateur qu'il entend nommer au 9e siège, pour l'instant vacant, de la Cour suprême des États-Unis. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.